Instant Psycho, 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous, c'est Axelle Jacquemont dans Parlons Psycho. Révision, chapitre, épreuves écrites ou orales, jury, candidat, convocation, rattrapage, ces mots ne vous ont-ils jamais donné la boule au ventre ? Chacun a ressenti plus d'une fois dans sa vie de collégien, de lycéen ou d'étudiant ce fameux trac, cette angoisse à l'idée de la charge de travail que nécessite un examen. Les parents traversent souvent eux aussi cette phase de stress, ce climat anxiogène qu'ils peuvent sans le vouloir transmettre à leur enfant. Alors faut-il travailler aux côtés de son enfant, l'aidant à apprendre en le faisant réciter, ou bien faut-il se transformer en véritable coach en lui préparant un programme avec des temps de pause, de sport, un régime protéiné, des exercices de relaxation? Difficile de trouver sa place et d'aider son enfant tout en le rendant autonome. Alors comment aider son enfant à préparer ses examens? C'est la question du jour. Et Laure de Lille est avec nous ce soir pour nous donner son avis et ses astuces pour aborder cette fameuse période. Bonsoir Laure de Lille.
Bonsoir Axel.
Donc Laure de Lille, vous proposez du soutien et de l'accompagnement scolaire depuis plus de 10 ans à Villefranche au sein de la société Réussica. Vous suivez donc collégiens et lycéens et vous continuez actuellement à vous former puisque vous préparez un master en sciences de l'éducation. C'est bien ça ? J'ai bien résumé ?
Tout à fait.
Alors Laure de Lille, donc, nous approchons de la fameuse période des examens avec le brevet et le bac, hein, les échéances du mois de juin. Alors comment et à partir de quand dans l'année faut-il mettre son enfant en condition pour le préparer à passer un examen? On imagine bien que ce n'est pas à la dernière minute sur la fin du mois de mai.
Alors, effectivement, en aucun cas, je dirais, c'est les dernières semaines où le challenge va se préparer. Je dirais que c'est même le plus tôt possible. Déjà, tout enfant en début d'année, quand il a un échéancier et un examen au bout, doit connaître le contenu de l'examen, tant au niveau du programme, hein, donc des chapitres à connaître, ainsi qu'au niveau de la méthodologie. Par exemple, moi, mes élèves, je commence à leur parler de bac ou brevet l'année précédente, c'est-à-dire des élèves en quatrième, je leur parle du brevet, et des élèves en bac de français, je leur parle du bac de français en seconde. Ça peut paraître long à l'échelle des élèves ou celui des parents, mais c'est un processus tout à fait logique dans le processus d'apprentissage. En effet, les programmes s'imbriquent d'une année sur une autre. Et pour, par exemple, les notions que doit maîtriser l'élève en première pour le bac de français, c'est un ensemble de constructions qu'il va mettre en place entre la primaire, le collège, la seconde et bien sûr son année de première. Donc un long processus qui, l'examen n'est là que pour finaliser tout ce travail.
Donc c'est important déjà de rassurer son enfant et de lui dire... Tu ne vas pas passer un examen pour passer sur le grill, mais vraiment pour valider ton niveau et tes connaissances.
Exactement.
Bon, c'est à ça aussi que servent les brevets blancs, les bacs blancs. Hein. On se prépare bien évidemment l'année hein, cruciale pour se mettre dans ces conditions d'examen. Auparavant, alors on sait qu'on a accès aujourd'hui à des supports hein, comme les fameuses annales, Anna Brevet, Anna Bac, que de nombreux parents achètent. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a des outils et d'autres méthodes que vous recommandez en plus de ces fameuses annales ?
Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire pour tous les parents qui s'inquiètent, comme pour la création de ce cours, plus précisément les fiches de synthèse. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, il faut prendre les cours et les exercices de l'enseignant de la discipline ainsi que le manuel scolaire. Déjà, c'est la première source pédagogique, le premier lien qu'il va y avoir avec le savoir. Ensuite, vous avez relaté d'autres supports pédagogiques type objectif bac. Alors, je dirais tout à fait, ils peuvent nous aider à retracer les fondamentaux de cette discipline. Et une fois qu'ils les maîtrisent, ne pas hésiter à faire des exercices d'application que vous pourrez tirer sur Anna Bac ou Anna Brevet. La première chose que j'aurais quand même souligné, c'est que le meilleur support pédagogique, c'est celui que va créer l'enfant pour vérifier si c'est approprié le savoir.
Donc, créer soi-même déjà des fiches ou des supports.
Tout à fait.
Avec, alors, on parle beaucoup des cartes mentales, qui sont des supports avec des moyens mémotechniques, des symboles, des couleurs, des schémas. Est-ce que vous, c'est de cette année de licence de sciences de l'information, de l'éducation que vous avez passé, on vous a mis en avant ce type de support. Est-ce que c'est vraiment la clé, ça?
Alors, du fait de mes 10 ans d'activité et effectivement au travers de cette licence, je peux vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais support. L'essentiel, c'est qu'il soit un bon élément pour que l'enfant approprie son savoir. Donc, les cartes mentales, pourquoi pas? Mais j'ai des élèves qui font plutôt des fiches de synthèse écrites, où ils font ressortir les plans apparents. Chaque enfant unique, chaque enfant a son parcours pour s'approprier le savoir. Une, par exemple, vous revenez, ces tendances, la fameuse carte mentale, je dirais qu'elle a des points forts quand la notion n'est pas complexe. En début de chapitre, pour faire un petit bilan. Mais notamment dans les chapitres d'éco en histoire géo, en terminale, les notions vont être de plus en plus complexes. Il va falloir que l'enfant fragmente le savoir. Et ça, je dirais, c'est plutôt à l'enseignant de le faire.
De nombreuses dates, excusez-moi de vous couper, ouais. Notamment en histoire, des frises chronologiques, des dates et des chiffres à énormément retenir. Bon, évidemment, le cerveau est puissant, mais on a quand même des synthèses à faire. Est-ce qu'il y a, par exemple, sur ces fameuses dates et ces chiffres à retenir, qu'est-ce que vous auriez comme idée pour, hormis l'apprentissage par cœur, il faut arriver quand même à ne pas s'embrouiller, pas se mélanger?
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, une fiche relatant les dates essentielles, évidemment, tout prof d'histoire géo vous dirait « bien entendu ». Mais le tout n'est pas d'apprendre les dates par cœur. Il faut se référer au contexte historique. Elles ne sont pas arrivées là par hasard.
Donc comprendre finalement.
Comprendre l'appel du 18 juin.
L'enchaînement, les étapes.
Exactement, l'appel du 18 juin de Général de Gaulle. Il y a eu un contexte historique très fort. Il l'a fait à la BBC pour appeler à la résistance. Mais ce sont des dates. Il faut surtout que l'enfant comprenne le contexte historique, le pourquoi du comment. Et les apprendre, certes, mais surtout, là, vous parlez du niveau bac, juste apprendre par cœur les données, il ne pourra pas vraiment répondre à l'exercice demandé.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer, des exercices de mémoire ou, fait référence Michel Sardou dans sa chanson « Apprendre en chantant », est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous pouvez aussi nous transmettre, nous donner comme idée pour mieux mémoriser?
Alors, là, la chanson, j'ai jamais eu recours à ce type de support pédagogique. Moi, ce que je conseille toujours, revoir le cours et aller sur Internet pour voir des séquences, des images filmées ou aller dans les musées, les châteaux, pour que l'enfant ait une représentation mentale de la scène.
N'est pas que du texte.
Exactement. Voilà. Il faut donner du volume. Quand je fais les bacs de français, on n'attaque pas un texte tout seul d'un auteur. Il faut maîtriser à la fois la vie de l'auteur et le contexte dans lequel il a évolué. Ça donne du volume et ça prépare également pour les études supérieures. Et ce travail de recherche, de réflexion, d'approfondissement est essentiel pour pouvoir bien comprendre les notions et être percutant le jour J.
On est vraiment donc dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'apprendre sur les supports donnés par le professeur, donc le cahier, les manuels scolaires. On va, comme vous l'avez dit juste avant, se préparer aux études supérieures, où là, c'est l'autonomie, c'est la prise d'initiative. En fait, les jeunes, par exemple, les étudiants en histoire de l'art vont faire des expos. Vous avez parlé de musées, de choses comme ça. On a la chance aujourd'hui, dans notre époque, d'avoir plein de supports.
Exactement. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de triste, de malheureux, une obligation. Au contraire, s'intéresser à nos ancêtres ou en mathématiques, il y a des dimensions à chercher, à creuser, un peu le voir comme une enquête policière et y prendre du plaisir. Plus l'enfant aura du plaisir à apprendre et plus il va progresser. C'est assez logique, en même temps ce que je vous dis, mais ça me paraît essentiel quand ils viennent de Baudelaire. Et ben non, c'est pas juste une poésie Baudelaire. C'était un être exceptionnel, avec un vécu exceptionnel, et il avait plein de messages à passer, comme Arthur Rimbaud. Et ses auteurs, il faut les apprécier. Et l'enseignant, quand il va lire la copie ou il va faire passer un oral, si l'élève s'est investi dans son savoir, l'enseignant ne pourra que le récompenser.
Alors, pour revenir sur la préparation en elle-même hein, des examens, moi, j'ai une question. Effectivement, les parents ne sont ni profs ni coachs. Bon, ils n'ont pas les mêmes attentes que leurs enfants. Jusqu'où doivent-ils aller pour accompagner leurs enfants dans les révisions ? Comme je l'avais dit tout à l'heure en introduisant l'émission, on peut bien évidemment être une oreille à l'écoute, hein, donc être là pour faire réciter une leçon. Mais est-ce qu'on peut aussi envisager que le parent soit plus là pour donner un programme dans la journée à son enfant, veiller à ce qu'il mange correctement, des repas équilibrés, vitaminés, peut-être l'emmener faire une balade. Toutes ces petites choses-là, finalement, qu'on a tendance un petit peu à oublier. On bachote, mais je crois qu'il y a aussi toute la préparation du corps et puis un rythme à prendre.
Oui et non. Déjà, en tant que parent, la tâche n'est pas facile. Donc, ne culpabilisons pas les parents qui, par manque de temps ou manque de savoir, ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. L'enfant, ce qu'il a besoin pour réussir ses examens, c'est un parent qui l'aime et qui le soutient. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on peut chercher sur Internet, on peut utiliser des supports pédagogiques qui vont aider l'enfant. Mais avant tout, ce que je dirais, dites juste à votre enfant, surtout les dernières semaines, où il va être très angoissé, Tu peux réussir, tu vas réussir. Par contre, je dirais, et ça j'en reviens à mes cours de didactique, le leitmotiv sera bienveillance, mais exigence. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la journée, il faut quand même savoir un petit peu ce qu'il a fait. Sans non plus mettre trop de pression, parce que souvent, ce n'est pas le cas de tout le monde, ils s'en mettent beaucoup, même s'ils ne le montrent pas. Donc, ayez un œil régulier sur ses révisions, sa progression. Mais après, une fois de plus, la personne qui connaît mieux son enfant, c'est le parent, et c'est à lui de bien sentir comment l'accompagner au mieux.
Donc il faut savoir lâcher prise en tant que parent, faire confiance à son enfant, si je résume bien ce que vous venez de nous dire.
Oui, alors le lâcher prise, non. Pour certains, il faudra vraiment être derrière. Mais en règle générale, il faut, comme vous l'avez dit au tout début de l'entretien, alterner les moments off, parce que sinon l'enfant risque une surcharge cognitive, et mais aussi les moments on, où il va être sur son savoir. Mais une fois de plus, un enfant qui est bien préparé tout au long de l'année, qui maîtrise le savoir et les méthodologies, doit réussir.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
C'est exactement ça, exactement ça. Et là, 3 semaines avant l'examen, je dirais bon courage.
Un petit peu juste. Ouais. Et est-ce que vous avez des livres ou des supports que vous pourriez nous recommander, que vous avez lus tout au cours de vos 10 ans d'années d'accompagnement scolaire et puis aussi remis à jour avec votre année de licence de sciences de l'éducation de cette année ?
Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est tout ce qui est objectif bac avec tous les fondamentaux chapitre par chapitre. Ça peut être un support pour les élèves qui ont du mal à synthétiser ou juste à écrire pendant le cours. Certains ne peuvent pas faire la double tâche, écouter l'enseignant et écrire. Donc, tout ce qui est ANABAC, ANABREVET me paraît essentiel. Ce que je préconise aussi, il y a beaucoup de sites internet aujourd'hui. Donc, allez sur ceux qui sont faits par des enseignants de l'éducation nationale ou des académies. Ne pas hésiter à chercher régulièrement. Ils sont renouvelés en permanence au niveau de leurs sources pédagogiques. Par exemple, pour le bac de français, je préconise « Zone littéraire » de Mademoiselle Carlier, qui est une enseignante en français et qui a énormément de supports pour faire avancer l'enfant dans l'acquisition de son savoir.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec les 10 années que vous avez passées à suivre des élèves, on imagine bien qu'il y a des élèves qui se sont révélés, qui s'étaient tournés vers vous parce qu'il y avait de grosses difficultés d'apprentissage ou peut-être un rejet de certaines matières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il y a des étudiants ou des lycéens que vous avez suivis et avec lesquels vous avez réussi à les faire accrocher avec une matière qu'ils n'aimaient pas du tout? Est-ce qu'ils ont réussi à aborder finalement cette bête noire grâce à vos outils?
En règle générale, c'est ma mission. À partir du moment où un parent me confie son enfant, j'essaye d'analyser pourquoi il n'arrive pas à apprendre. Ou il apprend mal, peut-être. Donc, mon but est que pour chaque enfant, je mette en place une stratégie pour le faire progresser. Alors, de là à aimer des matières, en disant « j'ai qu'une élève qui veut être prof de français », par exemple. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il Bien se découvre sûr. Lui-même. Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. L'essentiel, c'est qu'il se lève le matin. C'est ce que je leur dis tous les jours. Vous allez vous lever tous les jours, faites un métier qui vous plaît. Il n'y a pas de sous-métier, mais surtout, faites quelque chose qui vous plaît et la passion vous portera dans la réussite.
Donc se préparer à un examen, c'est se préparer à sa vie professionnelle, à sa vie d'adulte aussi.
Exactement, parce que souvent, pour eux, avoir le bac ou le brevet, c'est quelque chose de très abstrait.
C'est pas une fin en soi, même si c'est quand même la première porte qui s'ouvre pour accéder à des études et un métier.
Exactement, mais je leur dis souvent d'aller voir plus loin. Et ce que je conseille régulièrement aux parents, d'aller voir les conseillers d'orientation. Parce que les enfants, aujourd'hui, ils vivent au jour le jour. Donc, il faut absolument qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir. Tout ce savoir, la poésie, le théâtre, me semble, à mon avis, très éloigné de leur quotidien. Et donc, il faut trouver un point d'ancrage. Votre enfant est passionné de jeux vidéo ? Il veut être créateur de jeux vidéo ? Mais pourquoi pas ? Il y a de plus en plus d'écoles aujourd'hui. Moi, je dis, il faut qu'il fasse quelque chose qui lui plaise, en le ramenant à la réalité. Tu veux cette école ? Eh ben, t'as plus qu'à bosser.
Et au niveau des enseignants, des professeurs, là on a parlé beaucoup du rôle du parent hein, pour vraiment soutenir et accompagner son enfant dans cette préparation aux examens. Au niveau des enseignants, est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience ? Est-ce que les enseignants essaient d'adapter des cours avec ces fameux systèmes de cartes mentales, hein, de vraiment d'apprendre à leurs élèves à apprendre ?
Ça va dépendre d'un enseignant à un autre. Certains vont utiliser les cartes mentales, certains ont réalisé leurs cours il y a 20 ans, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire de les modifier. Aujourd'hui, la problématique étant de savoir s'il a envie de changer ses pratiques enseignantes. C'est le problème aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit le plus. Il y a des professeurs qui sont sensibles à l'évolution de tout ce qui est didactique et pédagogique, et d'autres qui le sont moins. Donc après, je ne me permettrai pas de juger. Chacun fait comme il veut sa transposition didactique. Je dirais juste, l'essentiel, c'est que l'enfant puisse comprendre. Et malheureusement, il faut absolument que les enfants qui sont dyslexiques, les enfants qui sont au potentiel, puissent comprendre leur cours et il faut qu'ils puissent l'adapter. C'est ça. Aujourd'hui, c'est des problématiques auxquelles sont confrontés les enseignants d'aujourd'hui. Les classes sont très hétérogènes.
Et ils doivent se former aujourd'hui à accueillir et adapter leurs cours à ce type d'enfants aussi qui ont des particularités.
Tout à fait. Donc l'école est dite inclusive et donc il faut pouvoir accompagner un maximum d'élèves. Moi, je ne suis que... Je trouve que les enseignants aujourd'hui, c'est les héros qu'on a. Parce qu'ils forment les têtes bien pensantes de demain. Ils ont vraiment des fois des classes qui sont difficiles à tenir. Et un enseignant est avant tout un intellectuel qui doit transmettre le savoir et pas un gladiateur qui rentre dans une arène. Et je pense que des fois, on l'oublie parce qu'ils sont là pour transmettre un savoir, pas pour garder des enfants.
J'espère que de nombreux lycéens et étudiants vous entendront ce soir. Parce que c'est intéressant justement de rendre ces lettres de noblesse à ces professeurs pour lesquels on n'a pas forcément de bons souvenirs avec les années derrière, mais de se dire qu'en effet, ils contribuent à former des adultes. Est-ce que, pour conclure cette émission, Laure, vous auriez un proverbe ou une devise fétiche ?
Alors, j'en ai deux. Alors, en tant que parent, les mots seront simples. Je t'aime, tu peux y arriver. Crois en toi et avec tout le travail que tu as accompli dans l'année, tu vas réussir. En tant qu'enseignant, je dirais différemment, mais pour dire les mêmes choses, tu peux y arriver, tu as travaillé, tu t'es bien préparé, donne tout et surtout, tu suis les consignes.
On est vraiment dans la bienveillance, on l'aura compris, dans la positive attitude et allié avec, je pense, un bon sommeil, une bonne alimentation. On devrait avoir tous les ingrédients, normalement, pour bien accompagner son enfant là. En tout cas, merci à vous, Laure, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos astuces.
C'était un plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que même si votre enfant a raté son examen, c'est pas la fin du monde. Il fera mieux l'année prochaine.
Merci à vous, Laure. À très bientôt à tous nos auditeurs de Radio Calade. Je vous donne rendez-vous donc pour une nouvelle émission au mois de juin. Très bonne soirée à tous.
Au revoir.
Calade.